petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
La grande majorité des commentateurs indépendants de la vie politique déplorent le manque de culture du compromis en France. En revanche, une majorité de leaders politiques français ont du mal à faire des compromis. Il est vrai que nos voisins tels que l'Espagne ou l'Allemagne ont davantage cette pratique du compromis, particulièrement pour former des gouvernements soutenus par des majorités parlementaires. Ces pays sont habitués à ce qu'un parti ou une coalition politique n'est pas la majorité. Nous, les Français, nous sommes accoutumés par les 30 dernières années du XXe siècle et même encore après à ce que le parti présidentiel ait la majorité absolue de l'Assemblée nationale. On ne peut actuellement même plus parler de majorité relative, tant il est vrai que chacun des trois blocs politiques est très loin d'avoir la majorité. Maintenant, ou bien la France est ingouvernable, ou bien elle se convertit à la culture du compromis pour construire une majorité gouvernementale. Un frein au compromis serait de considérer le compromis comme une ambiguïté due à des convictions et projets souvent très différents qui rendent difficile une entente. En Allemagne, l'ancienne chancelière Angela Merkel a dirigé un gouvernement composé de démocrates chrétiens comme elle, la CDU, et de sociodémocrates, le SPD. Or, depuis la fin de la guerre, ces deux partis, CDU et SPD, ont été les deux poids lourds alternatifs de la vie politique allemande, l'un de droite, l'autre de gauche. Il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin. Beaucoup renoncer à ses idées pour que chacun accepte de coopérer avec l'autre. Mais ce n'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses. Pour le philosophe chrétien Paul Ricoeur, 1913-2005, le compromis est un principe fondamental de la démocratie. Pour cela, il surprend en affirmant, je cite, « la justesse respective des positions contraires ». La justesse respective des positions contraires. Bref, en politique, personne n'a le monopole de la vérité et ainsi des avis contradictoires peuvent être vrais ensemble. Là, Descartes se retourne dans sa tombe. Pour lui, si une idée est vraie, son contraire est faux. Ce n'est pas le cas en sciences humaines et en pratique des relations humaines. Par exemple, je peux dire que trop de lois contraignent évidemment les libertés. Mais je peux dire aussi que pas assez de lois, comme en parle le dominicain Lacordaire au XIXe siècle. On peut dire donc aussi que pas assez de lois et trop de liberté laissent les plus puissants supprimer la liberté des plus faibles. C'est toute l'opposition entre libéraux et socialistes et ce clivage parfois, voire même souvent sectaire, est illusoire car les deux tendances ont raison. Les politiques françaises sont imprégnées de l'idée que négocier un compromis est un aveu de faiblesse, une capitulation au moins partielle. Cette idée participe encore trop de l'intime conviction que si j'ai raison, ceux qui ne pensent pas comme moi ont tort. C'est ainsi que les politiciens qui tentent de passer des accords, de s'engager dans des coalitions apparemment hétéroclites, de faire des compromis, eh bien, ces politiciens passent pour des magouilleurs qui tournent leur veste pour participer au pouvoir. Ce n'est pourtant pas la philosophie du français Paul Ricoeur, ni de l'allemand Jürgen Habermas, qui aujourd'hui a 95 ans, pour lesquels, Ricoeur et Habermas, la magouille serait plutôt au contraire, de jouer perso pour conquérir seul le pouvoir. Habermas parle d'agir communicationnel, c'est-à-dire de décision par consensus. Habermas souhaite même un consensus a priori, c'est-à-dire un consensus avant que chaque intervenant, que chaque interlocuteur ait forgé sa propre opinion en fonction de ses intérêts et de sa façon de voir. Pour ensuite tenter vainement de trouver un accord. Les Français accusent trop le compromis d'être une compromission, c'est-à-dire un abandon lâche de ses convictions. En fait, la principale conviction à ne pas abandonner pour tout démocrate devrait être le militant de l'idéal du compromis et du consensus. Sinon, il est impossible de vivre ensemble. La société flirte sans cesse avec la guerre civile. Chaque parti s'arc-boute sur cet actuel élément de langage politique qu'on entend souvent, les lignes rouges à ne pas franchir. Les lignes rouges à ne pas franchir. Certes, les lignes rouges sont un vrai problème qu'on ne peut pas éluder. S'engager en politique, ne serait-ce que voter, c'est viser un but collectif, un projet de société. D'autres n'ont pas le même projet que moi. Dès lors, pour être fidèle à moi-même et droit dans mes bottes, je peux resserrer mes lignes rouges au-delà desquelles je ne fais plus de compromis. Du coup, il est impossible de faire société. Mais je ne peux pas non plus trop desserrer mes lignes rouges à ne pas franchir, car mon engagement politique n'aurait plus aucune raison d'être, aucun sens. La démocratie doit faire preuve de discernement et de sens de la nuance, qui d'ailleurs, le sens de la nuance, est la marque de l'intelligence. Ainsi, en tant que catholique, je pouvais admettre, pour chercher un compromis, les lois Leonetti sur la fin de vie, qui autorisaient la sédation profonde au risque de la mort. Mais le projet de loi actuel sur l'aide à mourir, euthanasie qui n'avoue pas son nom, franchit sans doute la ligne rouge d'un catholique. Le philosophe Max Weber, en 1920, distinguait fort pertinemment la morale de conviction, qui n'accepte aucun renoncement à l'idéal, et la morale de responsabilité, qui tient compte du faisable et de l'infaisable. La morale de responsabilité n'élimine pas la morale de conviction. C'est pourquoi il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Mais ce n'est pas qu'une affaire de réflexion intellectuelle avant l'action. Il n'y a de société possible que par la fraternité. la fraternité relève d'un désir, celui de vivre ensemble, d'une affection sociale, d'un goût des autres. La loi française parle officiellement et textuellement d'une curieuse expression latine, l'affectio societatis. C'est écrit dans le droit des sociétés, dans le droit français des sociétés. L'affectio societatis est une des conditions juridiques pour que vive une association. Chaque associé doit faire preuve d'une affectio societatis, c'est-à-dire de ce désir de coopérer loyalement à l'entreprise associative. Les tribunaux peuvent exclure un membre d'une association, voire même dissoudre l'association, pour manque caractérisé d'affectio societatis. L'association peut par exemple être une association d'actionnaires, donc une entreprise. La loi s'applique ainsi aux associations. Alors, pourquoi l'affectio societatis ne s'appliquerait pas à la politique ? Certains députés donnent parfois l'impression de ne pas avoir d'affectio societatis. La culture de compromis procède de la fraternité issue, entre autres, de l'affectio societatis. Le compromis est une recherche du bien commun et pas seulement de l'intérêt général. On voit bien que le mot « intérêt » dans « intérêt général » ne convient pas à la fraternité de l'affectio societatis. De plus, le bien commun est un idéal qui se démarque d'une idéologie. L'idéologie prétend inspirer la politique en nous conduisant clé en main vers le bonheur matériel. Mais l'homme ne vit pas que de consommation, il vit pour un idéal lequel vise un horizon qui le dépasse et qui donne sens à sa vie. N'y a-t-il pas une spiritualité subliminale dans le désir fraternel de faire société et consensus ?
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.